Merci, Monsieur le Président. Je voudrais aussi remercier la délégation du Mexique pour ses paroles aimables. Je voudrais également remercier les autres délégations qui ont posé beaucoup de questions. Et je voudrais concentrer mes réponses sur deux thèmes, la coopération, c'est-à-dire l'article 28 de notre convention, et puis l'article 27. Pour nous, la coopération est une priorité. C'est prévu, encore une fois, par l'article 28, mais ce n'est pas seulement parce que c'est quelque chose qui est dit dans la Convention, c'est quelque chose de naturel. Et pour aller vite, cette coopération, cette consultation, cette coordination va dans deux directions. D'abord avec les procédures spéciales, à commencer par le groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires. Et ce n'est pas par hasard si notre nouveau président est un ancien président rapporteur du groupe de travail. Il y a une synergie tout à fait naturelle. Lorsque le président du comité présente le rapport annuel du comité devant l'Assemblée générale, dans la troisième commission de l'Assemblée générale, c'est dans le même panel que la présentation du rapport du groupe de travail par le président rapporteur. Et déjà à New York, il y a ce contact personnel et cette discussion publique de nos activités parallèles. Mais en dehors de ça, le président rapporteur et le président et les secrétariats ont des contacts très, très réguliers. Et tous les ans, en principe, nous avons une réunion conjointe du groupe de travail et du comité. Et nous disons toujours que nous sommes 15 à travailler ensemble, les 5 membres du groupe de travail et les 10 membres du comité. Cette session, pour des raisons de décalage de calendrier, nous n'avons pas pu avoir la réunion conjointe, mais il y a 2 jours, nous avons eu un duplex avec la présidente rapporteure du groupe de travail, Madame Eslami, et c'était quelque chose de très fructueux. Donc de ce côté-là, nous avons une coopération privilégiée, naturelle, une synergie, et nous avons également, dans la mesure du possible, des contacts à Genève ou à New York, des relations avec les rapporteurs thématiques. Notre autre champ de coopération, c'est évidemment les autres organes de traité. Et en tant que président, j'ai été très impliqué dans le réseau des présidents jusqu'à la conférence de la réunion de San José de Costa Rica et puis la dernière réunion à New York au printemps dernier. Et je crois que nous avons pu suivre la préparation d'abord de la résolution 68/268 de l'Assemblée générale et puis sa mise en œuvre. Et je voudrais souligner un point très important dans le rapport d'évaluation de bilan au bout de 2 ans fait par le secrétariat, c'est la demande que notre comité ait une 5e semaine de séance, ce qui est aussi une appréciation de la part du Haut-Commissariat du travail fait et des défis que nous avons pour l'avenir. Et ça, c'est peut-être une réponse aux questions de rythme qu'a soulevé la délégation française. Nous avons actuellement 4 semaines. Si nous avions 5 semaines, ça serait très important pour ne pas avoir de retard, de backlog, et pour traiter dans les meilleurs délais les appels urgents, qui est quelque chose de très lourd. En même temps, nous sommes conscients de la nécessité d'avoir une souplesse dans nos procédures et la Convention est un instrument moderne qui tient en compte de certaines critiques des États, notamment ce qu'on appelle la fatigue des rapports. Dans notre Convention, contrairement aux autres, il n'y a pas de rapport périodique. Il y a un rapport rendu par les États au bout de 2 ans et ensuite c'est nous qui devrons déterminer quel est le suivi, un suivi léger, adapté. Je ne veux pas préjuger ce que dira le comité dans sa collégialité, mais nous n'allons pas refaire un cycle de rapports lourds qui n'est pas dans la Convention. Ça sera une méthode de suivi beaucoup plus légère, pointue, efficace, je l'espère. S'agissant des principes directeurs de San José, nous avons évidemment d'abord adopté, pour reprendre le terme exact, en tant que comité, les principes qui avaient été approuvés par les présidents et nous avons mis en place un mécanisme pour faire partie de ce réseau. Mais comme l'a dit le président, pour des tas de raisons, on ne peut pas être plus concret, mais je crois que nous sommes très, très vigilants sur ce point. Alors, excusez-moi d'être un peu long. Sur l'article 27, je crois qu'il faut bien distinguer, et j'avais essayé de faire dans le discours de clôture de la 9e session, trois aspects. D'abord, il y a un aspect juridique. Il faut lire attentivement l'article 27. Et ce qui est en cause, ce n'est pas les obligations qui pèsent sur les États en vertu de la Convention. Ce ne sont même pas les fonctions qui sont exercées, le système des rapports, le système des communications, le système des appels urgents. C'est de savoir quelle est l'instance, l'organe le plus adapté pour les exercer. Et cette ouverture, cette hypothèque, j'allais dire, est liée au contexte de l'époque. Lorsque la Convention a été adoptée au début des années 2000, et ça se voit très bien dans les rapports du groupe de travail ouvert qui a négocié la Convention sous la présidence de l'ambassadeur Kessedjian, notamment le rapport de 2006, on était dans une période où l'idée d'un comité unique, d'un comité géant, ce qu'on appelle un jumbo committee, était en l'air. Aujourd'hui, on est dans un tout autre contexte avec cette harmonisation, cette simplification qui est prévue par la résolution 68/268 de l'Assemblée générale. Et du coup, ça m'amène à deux aspects complémentaires. C'est l'aspect technique. Je crois que je suis mieux placé maintenant pour le dire que quand j'étais président. Nous sommes 10 experts qui travaillons à plein régime. En 5 ans, à partir de rien, le comité a construit une méthodologie, des procédures avec des outils de travail, de coopération avec les États, avec les ONG. Nous essayons d'être user-friendly, enfin d'être le plus adapté. Et c'est un comité qui est très spécialisé, qui est très professionnel, et je crois qu'il est très, très efficace. Je veux rendre hommage à mes collègues qui sont tous d'excellents juristes. Et donc je crois que sur ce plan, sur le plan technique, pour une question très importante comme les disparitions forcées, mais en même temps très spécifique, collégialement, le comité a montré son expertise et a montré qu'il était irremplaçable. Et ça m'amène à l'aspect politique. La lutte contre les disparitions forcées est une longue histoire, une trop longue histoire. Il a fallu 30 ans d'efforts pour avoir une convention. Aujourd'hui, au bout de 10 ans, nous avons 52 ratifications, ce qui est tout à fait remarquable, mais il faut aller beaucoup plus loin. Et donc, plutôt que regarder vers le passé, il faut regarder vers l'avenir, ne pas recommencer à zéro en détruisant tout ce qui a été construit méthodiquement, mais avec beaucoup d'efforts et de vigilance. Et donc, continuer et aller plus loin avec une stratégie de ratification. Et là, nous comptons évidemment sur les États, notamment dans les groupes régionaux qui sont sous-représentés, y compris l'Europe d'ailleurs, pour avoir cette stratégie de ratification. Pardon d'avoir été trop long, Monsieur le Président. Allez, on...